Les Black Locas présentent une émission féministe. Rien à signaler.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sur Radio Dio 89.5 avec l'émission féministe Rien à signaler, un mercredi sur deux de 20h à 21h. Pour nous contacter, toujours rien à signaler, tout attaché et sans accent, @herbefolle au pluriel tout attaché.org. Oreilles sensibles, restez avec nous. Dans la famille du travail du sexe, je voudrais les personnes prostituées. Aujourd'hui, les effets du stigmate de pute. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec des extraits du débat politico-médiatique sur le thème de la prostitution.
6 mois de prison et 3 700 euros, voilà les peines encourues par les prostituées depuis 2003. Un constat alarmant et qui infirme les ambitions affichées de la loi sur le racolage passif. Alors que les arrestations se sont multipliées, aucune condamnation pour traite ou exploitation d'êtres humains n'a été enregistrée.
Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui puisse m'expliquer ce qu'on entend par racolage passif, parce que ça ne veut absolument rien dire.
Autre conséquence du tout répressif, elle déserte les trottoirs parisiens pour se réfugier dans les forêts ou en rase campagne.
Au départ, elle était présentée et vendue, entre guillemets, comme ça, comme une loi qui était pour lutter contre le proxénétisme et les réseaux. En réalité, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. En clandestinisant les filles, en les rendant vulnérables pour échapper tout simplement au contrôle policier, elles se sont éloignées des villes, elles travaillent dans des forêts ou dans des lieux qui sont insécures, où effectivement la mafia qui, elle, est organisée et pragmatique, leur a mis la main dessus.
Il y a quelques années maintenant, du délit de racolage passif a durablement déstabilisé les réseaux. Mais ceux-ci ont inventé d'autres moyens d'exploiter les travailleuses du sexe, qu'elles soient françaises ou bien qu'elles viennent d'Afrique, d'Asie ou d'Europe de l'Est.
Tout ce qu'il faut démanteler les réseaux, et je vois par exemple dans ma ville le turnover de prostituées venues un petit peu de tous les pays du monde, très encadrées, véritables esclaves, souvent mineurs, tout ça est insupportable et a fortement augmenté. Lutter contre ça, ça passe aussi, ça ne passe pas simplement par le démantèlement de réseaux qui sont souvent inatteignables, ça passe aussi par une meilleure maîtrise du phénomène de la prostitution.
Mais vous pensez que c'est en envoyant les prostituées en prison qu'on va démanteler des réseaux? Mais vous pensez que c'est en envoyant les prostituées en prison qu'on va démanteler des réseaux ? Mais vous pensez que c'est en envoyant les prostituées en prison qu'on va démanteler des réseaux ?
Ces nouveaux réseaux de proxénètes exploitent notamment les réseaux sociaux sur Internet à travers de fausses agences de mannequins ou d'escort girls pour recruter des clients, mais aussi des filles de plus en plus jeunes. C'est une réalité différente, apparemment plus feutrée, mais vous allez le voir, tout aussi sordide.
Non. Je pense qu'il faut qu'il y ait un levier, un moyen de pression par rapport à ces excès que nous vivons. Mais je pense que, comme on l'a très bien vu dans le reportage, il faut par ailleurs qu'on cesse d'être hypocrite par rapport à la prostitution. Sauf à être abolitionniste, ça n'est pas ma position. Et je pense que pour les prostituées qui sont en situation, pour ces personnes qui sont en situation régulière, il faut un véritable statut pour ces personnes qui sont en situation régulière, qui sont en situation régulière, qui sont en situation régulière, régulière. Il faut un véritable statut. Non.
Vous voyez en effet des gens qui sont au SMIC, des jeunes filles qui sont au SMIC, qui elles savent très bien quelle est la différence, parce qu'elles vivent dans des conditions difficiles, mais c'est pas pour ça qu'elles vont se prostituer, parce qu'elles savent très bien ce qui est une atteinte à la dignité humaine et ce qui n'est pas. Et c'est bizarre que vous ne le voyez pas. On ne pourrait pas le tolérer que notre sœur se prostitue. Vous aimeriez, vous, que votre sœur, votre mère soit prostituée? C'est intolérable, c'est intolérable, c'est intolérable, c'est intolérable, abominable.
Il y a beaucoup de gens en France qui, quand on parle de légalité de la prostitution, ils vous sortent toujours la même histoire, les maisons de tolérance du 19e siècle où les filles étaient esclavisées. Mais à cette époque-là, les gens qui travaillaient dans des usines, ils travaillaient 20 heures par jour. Oui. Les enfants travaillaient à l'âge de 9 ans.
Les boulevards extérieurs qui ne sont pas loin
d'ici. Moi, j'habite dans les boulevards extérieurs.
Mais écoutez, alors, est-ce que vous trouvez pas que c'est le 19e siècle? Est-ce que ces filles qui sont assassinées, comme Jinka, qui sont torturées, est-ce que ce n'est pas le 19e siècle?
Vous mélangez les trafics des êtres humains avec la prostitution.
C'est lié à la prostitution.
Je suis désolée, une personne qui est obligée de se prostituer ne se prostitue pas vraiment, elle est esclave. C'est la même chose que dire qu'un agriculteur, vous n'appelez pas agriculteur un esclave noir au 19e siècle aux États-Unis, vous l'appelez esclave, même si on l'obligeait à travailler dans la campagne. Enfin, ce n'était pas un agriculteur, c'était un esclave. Oui. Alors, une personne qui est obligée à se prostituer n'est pas une prostituée, c'est une esclave.
Oui, vous êtes toujours sur l'émission Rien à signaler sur le 895 de Radio Dio. Donc là, vous venez d'entendre des petits extraits qu'on a trouvés dans des émissions de télévision et notamment du journal d'un journal de France 3 et d'une émission donc animée par Thierry Ardisson et avec un débat entre Marcella Yacoub, qui est une universitaire qui défend les minorités sexuelles et aussi les prostituées. Et donc qui était en débat avec Bernard Lemaître, qui est en fait le président du Mouvement d'Uni, donc qui est une organisation très présente en France et qui tient des positions abolitionnistes, c'est-à-dire qu'elle défend la disparition, elle prône la disparition en fait de la prostitution. Donc voilà, elle voudrait supprimer la prostitution. Donc en fait, ce soir, on va vous parler des effets du stigmate de pute. Et notamment, on va vous parler de comment ce stigmate-là, il est construit donc dans les discours et comment il est repris dans les politiques pour en fait criminaliser les prostituées sous prétexte de lutter contre les réseaux de proxénètes, etc. Donc, on va commencer par ces questions sur le discours et après enchaîner sur comment le stigmate de prostituée, il est présent en fait dans la vie de toutes les femmes et qui s'attaque pas seulement en fait à des personnes qui vendent des services sexuels, parce que la prostitution c'est un service. Et du coup,
ouais, c'est un service commercial, on peut dire, surtout.
Voilà, c'est ça, c'est un service. Et du coup, comment en fait ce stigmate-là, il est employé par l'État notamment pour justifier d'une politique de criminalisation des prostituées Et ça a été la loi, en fait, la loi sur le racolage passif qui est entrée en vigueur à travers la LSI. C'est cette loi sur la sécurité intérieure qui a été mise en place par Sarkozy, donc alors qu'il était ministre de l'Intérieur, et qui, en fait, interdit aux prostituées d'exercer leur métier parce qu'elle les empêche d'avoir... juste d'aller chercher des clients, d'être dans la rue. Elle veut nettoyer la rue. Enfin, c'est le contexte, voilà, c'est cette loi. Et elle s'attaque pas d'ailleurs seulement aux prostituées, cette loi, elle s'attaque aussi aux SDF, aux jeunes, aux gitans. Et en fait, elle a pour but la sécurité intérieure. Donc la sécurité intérieure, ça serait personne dans les rues et le calme, etc. Donc voilà, donc ce soir, on va vous parler de tout ça en évitant bien soigneusement le débat pour ou contre la prostitution, parce que pour nous, c'est simplement un débat dans lequel les voix des prostituées n'est pas du tout prise en compte, où la voix dominante, c'est celle des abolitionnistes, du pouvoir, de l'État, qui voudrait que les prostituées soient des pauvres victimes de réseaux. On a entendu plusieurs fois dans ce qu'on vient d'écouter le terme mafia, donc qui voudrait lutter contre la mafia, alors qu'on sait très bien que la plus grosse mafia, c'est l'État. Donc voilà. Sur ce, on va faire de nouveau une petite pause musicale pour ensuite enchaîner sur une présentation de quels que sont ces discours sur la prostitution, sur ce qu'on a appelé, nous, le discours misérabiliste, le stigmate misérabiliste. Donc à tout à l'heure.
Nous revoilà donc dans la question des effets du stigmate de pute. C'est un peu le thème de notre émission. Lucie, tu étais en train de nous parler donc de ce discours misérabiliste qu'on entend beaucoup dans les médias.
Mmh. Ouais. Et dont on a entendu un peu des extraits. Ben, du coup aussi, donc dans ce qu'on a entendu, en fait, il s'agissait d'un affrontement verbal entre donc Marcela Yacoub, une universitaire qui défend les droits des prostituées, et un abolitionniste qui prône la disparition de la prostitution. Donc il en est souvent de ce débat, en fait, dans les médias, de ce débat à savoir si on est pour ou contre. Et du coup, là, on a très bien entendu... l'opinion abolitionniste, donc, qui prétend que la prostitution, elle soutient l'idée de la femme objet et que les prostituées sont donc, seraient donc de pauvres victimes ou des marginaux qui seraient paumés sans aucune perspective. C'est un discours, en fait, dans lequel les prostituées sont perçues comme des proies pour les proxénètes sans scrupules et les victimes, finalement, d'un système économique et social qui fait qu'elles ont pas d'autre choix, et donc on leur refuse la parole, on leur refuse le fait d'avoir le choix, en fait, juste de se prostituer. Et donc ce discours misérabiliste, il dit aussi que ce serait des enfants traumatisés, battus, violés, drogués, ou simplement des femmes qui accepteraient la violence inhérente à l'activité de pute.
Donc cette opinion-là, en fait, c'est l'opinion qui est hyper dominante. C'est un peu les images qu'on voit tout le temps à la télé. C'est les clichés qu'on a hyper intégrés.
Donc... Oui, et puis qui est présent dans la majorité, en fait, des discours sur la prostitution. Parce que là, tu parlais du NID. Donc c'est une association qui est plutôt catholique, quand même, au départ. Ouais. Mais il y a aussi... plein d'autres types de discours qui sont faits jusqu'à, par exemple, ATTAC, qui est une association donc, plutôt de gauche, machin, tout ça, qui va avoir des discours assez proches, enfin, qui va se retrouver en tout cas dans un courant hyper similaire, quoi. Donc ça balaye quand même ce que tu viens de dire, quoi, c'est vraiment un courant dominant, quoi, en tout cas en France.
Oui, en France, il y a vraiment ce discours abolitionniste-là. Donc abolitionniste, aujourd'hui, ça veut dire... qui est contre la prostitution. Donc,
c'est l'idée qu'elle ne devrait pas exister et que du coup, il faut mettre en œuvre il faut l'interdire et il faut tout mettre en œuvre pour qu'elle disparaisse. Quoi.
Voilà. Et notamment, par exemple, en Suède, ça a donné la pénalisation des clients.
Ouais. Qui rajoute encore plus de difficultés pour les prostituées, qui en fait leur créent des conditions vraiment pourries et c'est pire pour elles en fait. Enfin, ça les criminalise, c'est pas que ça les criminalise, mais ça leur rend la vie impossible, quoi.
Bah oui, parce qu'en fait, du coup, les clients, ils ont peur et du coup, il y a une activité. La prostitution devient une activité hyper cachée, donc du coup, c'est même pire pour les prostituées dans l'exercice de leur travail, en fait.
En fait, ce qui se passe en Suède, c'est ça illustre vraiment bien cette question du discours abolitionniste, parce que cette idée d'abolitionnisme là, elle est, il y a vraiment un amalgame qui est fait en fait dans ces discours là entre un réseau mafieux, l'idée de traite des humains, et puis la prostitution. Et en fait, en Suède, ils ont vraiment utilisé en fait le discours contre la traite des humains pour mettre en place tout plein de lois sur la prostitution, en fait. Et du coup, ça illustre vraiment cette idée qu'on retrouve aussi en France d'abolitionnisme, où y a plein de gens qui n'arrivent plus du tout à faire la différence, en fait, entre l'idée d'activité du sexe, et notamment dans la prostitution, enfin, des travailleuses du sexe qui vont se prostituer. Et voilà. Et cette question-là d'esclavage, comme le disait, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais...
Marcella Yacoub.
Marcella Yacoub.
Moi, je trouve super important de se rendre compte à quel point la répression qu'il peut avoir sur les prostituées, et particulièrement dans la rue, rend le travail difficile et dangereux du fait de l'isolement, tout ça, alors qu'il le serait pas sans ça, en vrai. Et du coup, qu'est-ce qui fait que ce métier devient dur et un vrai problème pour les femmes qui le font? Mais juste, c'est la répression qu'il y a dessus, quoi.
Oui, la répression est... La répression et aussi les clichés, les stigmates en fait qui sont portés. Ou les clichés, c'est c'est une pauvre fille et etc. Et du coup, par exemple, il y a eu aussi un bouquin qui est sorti qui s'appelle Mes chères études, où c'est une meuf qui s'appelle Laura D qui l'a écrit, et elle dit comment elle est arrivée à se prostituer parce que elle faisait des études et il fallait qu'elle se paye ses études, son logement, son petit ami, il était ignoble et tout ça, il voulait pas lui filer à bouffer et tout, et du coup pour elle ça a été limite une descente aux enfers. Donc il y a un espèce de discours hyper intégré comme ça, où elle-même, elle porte sur ce qu'elle a, sur la prostitution qu'elle a choisie, un discours hyper misérabiliste, et à dire que mon Dieu, c'est trop horrible d'avoir dû arriver en être arrivé là, alors que ce discours-là, en fait, c'est les clichés qu'on a eus, et c'est le fait justement de, enfin, c'est ce bourrage de crâne qu'on nous donne que la prostitution, que ce soit en Europe ou ailleurs, c'est un phénomène qui ne devrait pas exister, qui est synonyme d'assujettissement et de domination, enfin de soumission des femmes.
La médiatisation de ce truc de misère, là, des pauvres étudiantes, il a eu un gros coup à un moment où une émission de... Comment il s'appelle ? De la rue, voilà. Genre une super émission grand public à la télé où il y a une fille qui se prostituait, qui était étudiante, qui se prostituait par Internet et qui expliquait ce truc-là, comme quoi c'était horrible, de la même façon que tu viens de l'écrire pour Laura D. Et ce truc-là, ça a mis des filles au chômage, réellement, pendant un mois.
Ouais, et puis moi, ce que j'avais envie de dire par rapport à ce truc-là, de notamment qui est dit par les gens du mouvement du Nid sur l'atteinte à la dignité humaine, tout ça, qui ont tout un discours spécial, du coup. Enfin, c'est pas une idée que tout le monde peut avoir non plus. Il y a aussi souvent quelque chose qu'on dit dans la prostitution, c'est les femmes se donnent, les prostituées se donnent. Et ça renvoie pour moi vachement l'image de... En fait, du coup, il n'y a plus d'appartenance propre à son corps, à soi, parce qu'on le donne, quoi. Mais les prostituées ne donnent pas du tout leur corps. Elles vendent leur sexe ou un service sexuel, un service du coup, qui est là, qui est commercial. Et... mais du coup, elle le donne pas, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose qui va sortir d'elle et qui va pouvoir être filé comme ça, comme on file son sac à main ou je sais pas quoi. Et du coup, oui, voilà. Ça, déjà, il y a aussi cette idée, du coup, qu'on peut être aussi. Enfin, moi, je trouve que ça fait un peu lien avec un peu Satan, le diable. On est possédé ou quelqu'un.
On vend son âme au diable.
Voilà, vend son âme. Et en fait, ce que je trouve fou, c'est que du coup, ben, dans la prostitution, il y a un contrat avec des règles, des codes. Les sommes d'argent, elles sont définies à l'avance. Donc, s'il y a des gens qui peuvent penser que ben, il y a des femmes qui se donnent, a priori, pour moi, c'est plutôt pas dans le cadre de la prostitution, vu que là, on a un contrat qui est au départ un minimum défini, qui en tout cas est un contrat sur lequel va s'appuyer l'échange, le service commercial, quoi. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça, et puis ça, on en reparlait tout à l'heure, et oui, on parlait de se donner, se vendre, c'est des termes qui sont souvent entendus, quoi, utilisés. Est-ce que on passerait... vous avez envie de redire des trucs? On s'écoute. On avait prévu de vous passer du coup des samples de la pute Pride. Donc c'est un montage qui a été réalisé pendant la pute Pride de 2009. Donc la pute Pride, c'est une manifestation festive pour le droit des travailleuses du sexe. Et puis il va y aussi y avoir dans ces samples là, dans ce montage, des extraits d'interviews de personnes qui ont participé aux assises de la prostitution en 2009. Donc voilà, vous allez voir qu'on ne retrouve pas du tout le discours misérabiliste qu'on peut entendre le plus souvent, comme on vient d'en parler. Donc du coup, voilà, par contre, leurs revendications, les revendications qui viennent des travailleuses et travailleurs du sexe, qui se mobilisent à la pute Pride, ils prennent plutôt le contre-pied et ils refusent le statut de victime.
Donc la révolution sexuelle n'a pas marché, c'est ce que vous dites finalement.
Ce qui me semble plus les signes de cet échec, c'est plutôt l'attitude que l'on prend à l'égard de la prostitution, de la pornographie.
Ouais.
Ce qu'on pense, nous, c'est que la prostitution devrait être une activité, quand elle est bien sûr librement choisie, légalisée.
Oui, pour vous finalement, ce que vous dites en gros, c'est que la prostitution, c'est un métier comme un autre, quoi.
Ça devrait l'être, en tout cas.
Oui, ça devrait l'être.
Ouais. Ah,
voilà.
Ah,
ouais.
Oui. On n'oubliera pas.
Je suis hyper choquée d'entendre parler aujourd'hui à fond de démocratie, de ministère, d'élus, etc. On est dans un régime qui est fascisant, il faut, enfin, vraiment concrètement. Et je trouve ça surprenant qu'il n'y ait pas plus de radicalité dans le discours. J'avais l'impression d'être un militant du Parti Socialiste et ça m'a dérangé.
Vous couchez avec nous, vous votez contre nous, vous couchez avec nous, vous votez contre nous, vous couchez avec nous, vous votez contre nous, vous couchez avec nous, vous votez contre...
Ça fait du bien, ça libère notre agressivité qu'on a contre la société, ça fait du bien, ça chie un peu. Chaque fois qu'on l'ouvre, on se fait ramasser, c'est bon. Là au moins on peut gueuler tranquille.
Eh ben non, vous passez pas. Vas-y. Allez, passe. On prend bien 5 minutes pour vous chasser, on prend bien 5 minutes pour vous arrêter, non?
vous couchez avec nous, vous votez contre nous, vous couchez avec nous, vous votez contre nous.
On est plus, on est fiers.
Sarkozy, c'est la guerre.
On est plus, on est fiers.
Sarkozy, c'est la guerre.
Il y a même le problème du féminisme qui est un véritable noyau d'enquiquinement à ce propos, puisqu'on n'est pas toutes d'accord entre nous, et qu'il y a beaucoup de féministes, par exemple, qui ne soutiendront jamais la cause des prostituées parce qu'elles les considèrent comme des victimes, voire même des porteuses d'ennuis, de maladies. Et voilà, donc je trouve ça idiot. Je crois qu'on est là aussi pour s'expliquer les unes les autres et pour dire, voilà, être féministe, c'est pas être sexiste. C'est considérer qu'il y a aussi des femmes qui sont libres de choisir d'être prostituées et que c'est pas des victimes pour autant. Je crois que c'est très important de le dire. Il faut absolument pas séparer les choses comme ça. C'est diviser pour mieux régner, c'est beaucoup trop dangereux. Et les gens le font déjà, c'est bien assez comme ça.
Donc vous êtes toujours à l'antenne du 895 de Radio Jo pour l'émission féministe Rien à signaler. Donc là, ce qu'on vient d'entendre, c'était des petits extraits de la pute Pride qui a eu lieu en mars dernier. Et voilà, parce que ce soir, on vous parle de prostitution et des effets du stigmate de pute. Donc là, il est maintenant, enfin, il est question en fait du choix d'être prostituée, de se prostituer. Et du fait que ce choix, en fait, il est présent dans tout un contexte, donc qui est le contexte avec un discours dominant qui est abolitionniste et qui est un contexte sécuritaire de la mafia de l'État, donc qui veut empêcher, enfin qui veut protéger les pauvres prostituées et qui du coup les criminalise parce que c'est bien sûr qu'un prétexte. Et donc, du coup, là, on avait très envie de vous parler du fait que, ben, on peut choisir d'être prostituée et que, bien sûr, c'est pas un choix qui est évident, qui est facile, mais que c'est le choix qu'on peut faire dans cette société où le SMIC, c'est que dalle et où on n'a pas d'alternative vraiment. Ou dans lequel on a besoin d'argent, etc.
Ouais, on est bien obligé de prendre en compte qu'on vit dans un système économique que souvent on subit quand même et où on a quelques choix de s'en sortir comme mendier un peu un RMI 400 euros par mois avec lequel on peut à peine survivre ou aller bosser pour soi-disant 1000 euros par mois, parce qu'on n'est pas toujours forcément payé au SMIC comme ils veulent bien nous le dire et nous faire croire qu'on signe des contrats au SMIC. Et du coup, dans tous les choix qu'on nous propose, on prend ceux qu'on ne nous propose pas, des fois, comme se prostituer.
Ouais, moi je suis un peu.
Mais en fait, la question du choix, elle se pose aussi sur les conditions de travail. Et que notamment en fait les conditions de travail, on peut, enfin c'est possible toujours de les négocier et notamment par la lutte. Et là, la pute Pride notamment, c'était aussi une volonté en fait de lutter pour de meilleures conditions de travail. Donc là, immédiatement, les meilleures conditions de travail pour les prostituées qui travaillent dans la rue ou qui travaillent sur Internet, c'est l'abrogation de cette loi sur la sécurité intérieure. Et également sur, et en particulier pour ce qui nous concerne là, la loi sur le racolage passif. Donc, et le choix des conditions de travail, c'est aussi ce dont on parlait la dernière fois pour l'Argentine, enfin, ouais. Qu'un peu partout.
Ouais, autant. Autant ici, on peut se dire qu'à un moment, on choisit entre divers travails qu'on veut bien nous laisser avoir. Et si à un moment on choisit la prostitution, c'est certainement parce qu'en fait, déjà, on pose nous-mêmes nos conditions de travail, on pose nous-mêmes le contrat et on l'impose même. Et c'est hyper important. Et dans le système économique dans lequel on est, c'est le seul. Enfin, il y a un moment où moi et puis d'autres personnes, c'est la seule alternative de liberté, de semi-liberté dans un système hyper fermé économiquement, quoi.
Ouais, puis ça fait pour moi écho à cette idée que on va pas définir pour les gens comment ils vivent les choses ou pas, en fait. Et du coup, que ce soit, du coup, comme vous disiez, en Argentine ou ailleurs, en fait, c'est on va pas comparer, en fait, déjà les situations. C'est et puis là, on va entendre tout à l'heure un texte de gens qui viennent, qui parlent, qui sont thaïlandais et qui donc du coup posent leurs paroles. Et voilà, je crois que chaque réalité, du coup, elle est différente et chaque personne, elle va définir, en fait, ses choix et elle va choisir, du coup, potentiellement, des conditions de travail et ce sera en fonction des réalités. Et voilà, on parle de réseau international, de mafia dans la prostitution et tout, mais c'est hyper compliqué de s'amuser à comparer c'est quoi les situations des gens à droite, à gauche. Enfin voilà, il y en a plein en fait. Et les gens, ils ont aussi leur histoire et leurs propres raisons. Et ils ont à être entendus en fait. C'est hyper important du coup ouais. Qu'on fasse pas un discours pour eux, quoi.
Et globalement, en fait, la situation économique des femmes dans le monde, c'est que 95% des moyens de production sont détenus par les hommes et que 70% de la production, elle est produite par les femmes. J'aime beaucoup ces chiffres qu'on a déjà donnés dans l'émission précédente. Et ouais. Je trouve qu'ils trahissent vraiment ce que c'est le choix aujourd'hui quand on est une femme et qu'on veut vivre dans des conditions matérielles correctes. Et du coup, ben voilà, on est dans une société bien sûr qui est patriarcale, c'est-à-dire que dans laquelle il y a une dissociation avec les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et un modèle de l'homme blanc hétérosexuel. Et on est dans cette problématique-là que en fait les femmes elles sont socialement et économiquement, en fait, en situation d'infériorité par rapport à ce modèle de l'homme blanc hétérosexuel. C'est valable aussi pour des PD, des trans, etc., qui sont aussi des personnes qui sont présentes dans la prostitution.
Ouais. Moi, j'ai envie de dire, pour quand tu disais un peu ce qu'était le patriarcat, que c'est un système de domination dans lequel on peut voir du coup qu'il y a un groupe d'hommes qui a une forme de domination sur le groupe des femmes, et que c'est d'abord, pour moi en tout cas, un système de pensée et un mode d'organisation. On n'est pas obligé de le penser juste en individu. Je suis un homme, je suis une femme, qu'est-ce que ça veut dire? Bah oui, bien sûr qu'il faut se poser des questions, mais c'est avant tout un système aussi de pensée, d'organisation, tout ça, et dans lequel du coup économiquement, voilà, si on fait le tour de la planète, je disais tout à l'heure, les réalités sont très différentes et en même temps, elles sont hyper communes, quoi, si on s'en rend vite compte, quoi. Et il y a un truc qu'on a un peu oublié de raconter tout à l'heure, justement, c'est que dans ces discours abolitionnistes, là, il y a tout un courant féministe qui va défendre, en fait, l'idée que si on abolit la prostitution, alors on va abolir le patriarcat. Et moi, ça me semble pas forcément logique comme idée. Enfin, je crois pas que c'est comme ça que ça. Alors, qu'est-ce que. Ouais. Et que du coup, oui, c'est effectivement les situations économiques qui sont problématiques et que c'est pas la prostitution qui fait le patriarcat, c'est d'abord les situations économiques et le patriarcat qui créent des possibilités pour la prostitution, en fait. Et qu'il faut pas oublier ça. Et se faire des ennemis comme ça, et c'est ce que disait aussi une des nanas dans les samples, là, de se dire comment il y a une division interne aussi des femmes.
Et des féministes.
Et des féministes, du coup, qui est hyper. Qui est néfaste, en fait, pour nous, pour les prostituées, pour une société, quoi.
Ouais. Et sur, comme on a évoqué à un moment l'Argentine et les luttes qu'il peut y avoir de la part des prostituées en Argentine, et au cas où on aurait tendance à penser qu'ailleurs ou dans les pays vraiment plus pauvres, ben, les prostituées sont encore plus misérables, on pourrait lire, on va lire ce petit texte. Qui est une réponse à l'affaire Mitterrand qui a été médiatisée et puis que je ne vais pas forcément tout vous raconter. Vous avez dû en entendre assez parler comme ça. Et qui nous parlait de ces pauvres et misérables prostituées du sexe en Thaïlande, travailleurs du sexe en Thaïlande. Donc c'était le 26 octobre 2009. Affaire Mitterrand, ce qu'en pensent les travailleurs du sexe thaï. Il a été porté à notre attention qu'il y a toujours un débat en cours autour de la question du ministre français de la Culture, Frédéric Mitterrand, et son aveu d'avoir payé pour des rapports sexuels avec des professionnels du sexe en Thaïlande. Nous avons vu ces attaques contre lui provenant à la fois de la gauche et de la droite politique française, attaques que nous voyons à la fois comme homophobes et anti-travailleurs du sexe. Pire encore, nous les voyons comme racistes, une vision orientaliste des élites, des deux côtés de la politique française, qui construisent une représentation des travailleurs du sexe thaï, en quelque sorte en position de passivité et incapables de choisir ce que nous faisons. En Thaïlande, tous les travailleurs du sexe masculin sont désignés par le terme « nong », qui signifie « garçon ». Nous ne sommes pas des garçons, en dessous de l'âge légal, contraints à l'esclavage sexuel. Nous sommes des gens dans un pays pauvre qui exercent notre choix de vivre et de gagner de l'argent pour nous-mêmes et surtout et soutenir notre famille et notre pays. L'argent que nous gagnons et que nous envoyons chez nous dans les zones rurales de la Thaïlande est beaucoup plus important que tout programme de développement international et soutient beaucoup plus de personnes. Le tourisme en Thaïlande est la deuxième industrie de notre pays et les gens ont des rapports sexuels pendant les vacances. Sont-ils censés rester célibataires ? Est-il aujourd'hui inacceptable pour des Européens d'avoir des rapports sexuels avec des Asiatiques au cas où ils nous exploiteraient ? Si les politiciens français sont si préoccupés par notre exploitation, ils feraient mieux de soutenir des lois protégeant le travail des travailleurs du sexe et pousser l'OIT à reconnaître le travail du sexe comme un travail. Jusqu'à ce que les partis de la gauche et de la droite de la politique française se décident à augmenter substantiellement l'aide au développement pour redistribuer les richesses que la France et d'autres anciens pays coloniaux ont volées au monde en développement, nous serions reconnaissants si vous continuiez à nous envoyer vos touristes afin que nous puissions leur montrer ce qui est passé du bon temps et obtenir une partie de votre argent durement acquis. Réseau Pacifique, Asie-Pacifique des travailleurs du sexe, Bangkok, Thaïlande. Voilà, comme ça, on est bien fixé sur cette horrible misère des travailleurs du sexe en Thaïlande qui s'en défendent très bien eux-mêmes.
Mais en France, on a entendu beaucoup de commentaires par rapport à cette histoire-là de Frédéric Mitterrand et du coup à la confusion entre prostitution et pédophilie. Et du coup, il y avait une opinion qui était politiquement correcte, qui voulait que, c'est évident que le tourisme sexuel, c'est vraiment pas bien. Alors que peut-être la question, c'est pas le tourisme sexuel, c'est le capitalisme, la domination de l'Occident et l'hétéropatriarcat.
Mais qu'est-ce qui a fait que les gens se retrouvent dans des situations économiques catastrophiques quelle responsabilité en fait, c'est la question qu'il pose en fait. C'est super intéressant ce texte, puis je trouve qu'il démonte vraiment plein de clichés en fait de l'image là moi ce que j'aime bien dans ce texte aussi, c'est ce que je pense raconter avant de faire l'émission là, c'est clichés un peu de la Thaïlande, c'est juste des enfants dans les rues ou des pauvres gens qui sont je sais pas, vous avez peut-être déjà vu à la télé, ça n'a pas l'air réjouissant comme ambiance. Et là, de voir que c'est des gens qui ont une parole, qui s'expriment bien, qui arrivent à revendiquer des choses et qui ont l'air super sensés, en fait, je trouve que ça démontre complètement cette image de pauvres gens qui alors, il y a sûrement des gens qui sont dans des situations hyper difficiles aussi. Il ne faut pas dire non plus que tout va bien à fond, quoi. Mais il n'y a pas que ce tableau complètement désastreux et un peu ce mot moi que j'ai beaucoup entendu là, c'est la prostitution, c'est la descente aux enfers, quoi. C'est Voilà, c'est une image, en tout cas, permanente, je trouve, assez souvent, quoi.
Ouais, et ce qui est aussi assez facile à démonter, c'est toujours, comme on médiatise souvent, d'ailleurs, la prostitution dans des pays plus pauvres que l'Occident, c'est des organisations mafieuses vraiment dégueu, horribles. Et juste là, on a un réseau Asie-Pacifique des travailleurs du sexe. Voilà, juste, ils s'organisent eux-mêmes, entre eux. Et visiblement, en tout cas, sans forcément avoir un Mac pour écrire des textes à leur place, quoi.
Ouais, et puis... Et du coup, il y a une parole, il y a une lutte, en fait. Et il y a une volonté comme ça de se réapproprier juste un discours sur soi et qui soit pas le discours abolitionniste ou le discours de la mafia de l'État. La mafia étatique. On va faire une petite pause musicale.
Ouais. On va écouter une chanson de Lila Downs, qui est une chanteuse métisse indigène du Mexique et États-Unis, et qui nous chante une chanson justement sur comment une gamine de 14 ans peut choisir de se barrer d'un mariage pour aller danser sur des tables dans des bars blindés de mecs bourrés et les séduire et bien gagner de l'argent et être contente.
Va Mexico. Me fue embrujado.
Vous êtes toujours dans l'émission Rien à signaler sur le 895 de Radio Dio. Donc aujourd'hui, on vous parlait des effets du stigmate de pute. Et là, on avait envie d'aborder un peu un deuxième thème de ce volet, qui est la violence, en fait, qui réside dans ce terme et qui est présente et qui est exercée super souvent, ne serait-ce que parce que pute, putain, c'est une insulte. Et elle est souvent pleine de violence et de mépris pour les putes, du coup. Et voilà, c'est assez facile hein, d'identifier ça. Par exemple, sale pute, fils de pute, salope, c'est un vocabulaire investi d'une énergie assez significative, je trouve. Et ce qui veut aussi dire que, moi, je trouve, du coup, assumer aussi d'être pute, c'est-à-dire se réapproprier ça comme quelque chose qu'on rejetterait un peu comme quelque chose de dire, par exemple, se dire moi je m'en fous, je suis une salope, donc je correspond pas aux normes en fait qu'on attend de moi dans la sexualité ou en tant que femme et tout, ça devient dangereux en fait socialement, il me semble quand même. Et je trouvais aussi qui était important de dire là, enfin ce qu'on avait envie de souligner, c'était que ce truc de stigmate de pute ou de question de prostitution, elle concerne bien toute la société et bien toutes les femmes. Et par exemple, moi j'avais envie de raconter une petite histoire assez banale en fait, tu te balades dans la rue, et pour dire à quel point, enfin voilà, c'est un truc qui peut concerner le quotidien et un peu toutes les femmes. Moi, si je me balade dans la rue le soir et que y a un type qui essaye de me parler, qui me dit que je suis belle, est-ce que je peux venir avec lui, qu'il a envie de s'intéresser à moi, je sais pas quoi et tout, et que moi, du coup, non, je m'intéresse pas à lui et ou je l'ignore ou alors je lui fais comprendre que y a pas moyen, que je suis pas sa pote, et j'entends sale pute direct en fait, il y a même plus. Là, tout le vernis de sympathie s'effondre et je deviens une sale pute. Et ça sonne autant comme un mépris, mais ça sonne aussi comme une menace. Et voilà, ça représente bien, en fait, pour moi, toute l'énergie qu'on va mettre dans ce mot et ce qui va signifier, en fait, au quotidien et ce qui va, du coup, être l'effet, du coup, de ce stigmate pour des prostituées au quotidien. C'est aussi ça qui se passe. Du coup, la menace, c'est dans la répression, mais le mépris, c'est aussi à travers plein de choses, quoi.
Oui, et
je vais continuer simplement sur peut-être cette idée sur à quoi ça sert ce stigmate dans la vie des femmes. Il y a plusieurs volets en fait. Il y a déjà simplement c'est quelque chose qui est comme le reste, enfin comme plein de choses. On est construit socialement et du coup, à travers l'éducation, à travers cette construction sociale d'être une fille ou un garçon, on va amener les filles à plaire, à séduire aux hommes, à être belles. On peut se demander à quoi ça sert aussi hein, toute cette énergie qu'on met à dire aux filles qu'il faut qu'elles sont belles, qu'elles soient belles, qu'elles plaisent. À quoi sert notre corps? Est-ce qu'il nous est utile? Ça, c'était ce que Jo racontait une fois dans une émission qu'on a passée là. Notre corps, est-ce que c'est un outil avant tout ou est-ce que simplement c'est un corps qui va être tout le temps beau et qui va nous servir à avoir accès à des trucs parce qu'on n'a plus que ça en fait. Donc pour moi, ça rejoint quand même cette idée que il y a aussi après dans la société des rôles qu'on va donner aux femmes et notamment on va attendre que. Tu voulais raconter, je vais finir mon idée, mais qu'elle soit disponible sexuellement et on va apprendre aussi à s'occuper des hommes, s'occuper des autres. Ça s'appelle même des fois les théories du care aussi, il y a des gens qui ont développé ça.
Mais moi ça me faisait penser ce que tu disais juste au fait qu'on a besoin. Enfin, que le stigmate, il est présent, il est hyper visible, hyper présent partout au quotidien et qu'il est présent pour les femmes. Et qui plus est, qu'il est encore plus présent pour les putes, forcément. Et du coup, il y a Anne Souris et puis Catherine Deschamps qui ont écrit un bouquin qui s'appelle « Femmes publiques ». Et le sous-titre, c'est « Les féminismes à l'épreuve de la prostitution », et qui donne un peu, qui explique un peu leur démarche, donc à travailler, à bosser, à parler de la prostitution, et qui disent en fait comment, pour elles, c'est être féministe aussi, c'est soutenir les prostituées. Du coup, je vais vous lire un tout petit passage. Du coup, elles disent « S'associer aux prostituées, c'est pas seulement modifier la condition qui leur est propre, c'est plus largement combattre le stigmate de putain en tant qu'il rejaillit sur toutes les femmes. Affirmer une continuité entre la condition des personnes prostituées et celle de toutes les femmes, comme nous le faisons, c'est créer les conditions de l'alliance entre les prostituées et l'ensemble des femmes, et entre les différents courants féministes également. » Nous affirmons donc un féminisme de solidarité, radical et dynamique, inscrit dans le temps présent. Un féminisme qui n'est pas dogme, mais démarche, et dans lequel méthode et objectif sont foncièrement imbriqués l'un dans l'autre. Et du coup...
Ouais, tu veux dire un truc ? Ouais, donc on s'est un peu perdu dans le fil parce qu'on avait quand même un peu réfléchi notre émission et des fois on s'en mêle les pinceaux. Et voilà, du coup il y avait donc ce que je racontais juste avant là, cette idée de que du coup quand même c'est pas par hasard si on se retrouve dans cette proximité comme ça en tant que femme ou autre d'ailleurs, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas femmes, qui sont concernées par la prostitution, et qui sont donc homosexuelles, transsexuelles. Ce stigmate, enfin cette manière de construire l'idée de prostitution, il vient aussi servir une forme de contrôle en fait sur la sexualité des femmes, simplement parce que ça pose des normes. Grâce à ces normes et toutes ces pressions à devoir être moralement correct, on peut asseoir une domination patriarcale comme ça. Et par exemple, simplement maintenir une norme sexuelle, c'est là dans cette histoire de prostitution, enfin de pute plutôt, c'est avoir un seul partenaire, ne pas montrer qu'on peut avoir une libido, qu'on peut avoir du désir, qu'on peut faire du sexe pour du sexe. Être une pute, c'est aussi imaginer que, pour plein de gens, si des femmes ont envie d'avoir du plaisir dans la sexualité et juste ont envie de faire du sexe pour ça, ça peut paraître pas tout à fait logique. Et voilà, il y a plein de manières de réassigner les femmes à une place qui serait la meilleure. Et par exemple, simplement, les références religieuses, elles laissent pas beaucoup le choix. Si on prend les vieilles... Enfin, un truc qui est quand même super ancien, les modèles féminins de la religion chrétienne, c'est la pute ou la mère sainte, quoi, qui est dévouée. Voilà. Du coup, c'est pas super intéressant comme panel de choix, mais ça pose aussi vraiment deux lieux hyper cadrés où on a un système de pensée là, qui nous dit bien ce qui est et ce qu'il faut être ou pas, quoi. Voilà.
Bon, on n'a qu'un...
Alors, on est un peu en retard, en fait. C'est pour ça qu'on a l'air un peu... c'est un peu le bazar. On va s'écouter une petite chanson de Evie. C'est issu d'une compilation qui s'appelle « Les femmes de Paris ». Et donc, Evie chante « C'est une question qui se pose ». Voilà.
Coincé, c'est une question.
Le stigmate de la sale pute, on peut le voir donc un peu comme une espèce de barrière où on nous apprend dès toute petite à être des bonnes petites filles, à bien s'occuper de tout le monde, à être disponible, surtout à être bien disponible pour les gens, pour les hommes, à être bien habillée, à être belle, à être propre, tout ce qu'il faut. Et moi, là-dedans, le stigmate de la sale pute, j'ai l'impression qu'on peut le voir un peu comme une barrière, c'est-à-dire à partir du moment où la petite fille, elle décide elle-même d'être disponible ou pas, d'être belle ou pas, propre ou pas, et ben si elle décide elle-même de ça, elle devient une sale pute. Et là-dessus, on a par exemple un bouquin de Nancy Houston, dont j'ai oublié le titre, mais où elle décrit bien ce truc comme le mythe de la chute de la jeune fille innocente, c'est-à-dire la jeune fille innocente, donc c'est cette petite fille qui a été bien éduquée, tout ça, et qui d'un coup, si elle va faire des choses au-delà de son éducation, comme se prostituer, comme d'ailleurs avoir même juste plusieurs amants avant même de parler de prostitution, eh ben, elle est en chute, elle tombe, au lieu de simplement dire qu'elle décide, elle s'éloigne du cadre du patriarcat, et voilà.
Oui, bah cette idée de chute, elle est vraiment, enfin, en fait, elle incarne vraiment l'idée du stigmate parce que on tombe, il y a l'idée de tomber et que du coup, il y a l'idée que ça marche pas, que c'est nul, alors que en fait, c'est peut-être simplement un détachement et c'est simplement un choix et du coup, pour moi. Cette idée du stigmate, elle participe vraiment de la vision misérabiliste qu'on a démontée tout à l'heure. Et c'est, je pense, la vision contre laquelle on doit vraiment lutter, enfin, les clichés contre lesquels on doit vraiment lutter. Et que l'important, c'est de regarder la réalité concrète de ce que c'est les conditions de vie et de ce que c'est le choix. Et voilà, et lutter contre la vision hétéronormative et restrictive sur les femmes, enfin sur les droits des femmes, des prostituées et tout ça, et arrêter de parler de chute.
Ouais, on n'a plus besoin de comment elle a pu en arriver là.
Non, elle l'a choisi. On y arrive et très finalement, bien. C'est peut-être bien pour
ça. On n'est pas tombé, on est monté.
Bon, mais du coup, sur ce, on va vous laisser. On avait vraiment envie de vous raconter encore d'autres trucs, en fait. Hein. On a carrément zappé des morceaux entiers de trucs. Donc, en fait, de toute façon, en préparant cette émission, on a ciblé un peu notre émission sur un thème. Et on a encore plein d'autres trucs à vous raconter. Donc, on reviendra sur toutes ces questions bientôt. L'émission Rien à signaler, ça a donc lieu un mercredi sur deux. De 20h à 21h sur l'antenne de Radio Duo 89.5 et sur Internet aussi. Un de ces quatre, on fera un site et on vous mettra nos émissions en ligne aussi. Vous pouvez quand même nous joindre sur notre adresse Internet.
En attendant de nous joindre sur notre blog.
Voilà. Et puis, on va s'entendre Nina Hagen. Et puis, après nous, tout de suite, ce sera l'émission Boogie. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Kali rechts, rechts und schritt die Kali rechts.
Nina, Nina, Tom Cortina, it's a reactor.